Bonsoir. Situation sécuritaire au nord Kivu. Les services des renseignements rwandais et congolais ont entamé des vérifications à Goma au sujet de l'affaire des combattants rwandais qui se sont rendus la semaine dernière à la MONUSCO à Rutshuru. Ville de Kinshasa, l'opération Ville Propre lancée par l'hôtel de ville prend des allures inquiétantes avec quelques dérapages. Certains éléments de la police s'en prennent avec brutalité aux commerçants qui étalent leurs marchandises le long des artères de la capitale. Tels sont les thèmes que vous propose le Tribune de la Presse de ce soir. Pour confrères journalistes qui participent à ce débat, il s'agit de John Ngomboa. Il est directeur des informations à la télévision Antenne A, émettant depuis Kinshasa. Bonsoir John Ngomboa.
Bonsoir Guy.
Joël Kadé Danga, éditeur du journal Impact News, c'est un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Joël Kadé Danga.
Bonsoir Guy, bonsoir chers auditeurs.
Et Magloire Paloukou, directeur général de la radio Kivu 1, une radio qui émet depuis la ville de Goma, au nord Kivu. Bonsoir Magloire Paloukou.
Bonsoir Guy, bonsoir à tous les amis dans le studio.
Situation sécuritaire à l'est de la RDC, opération assainissement de la ville de Kinshasa. Pour savoir comment la presse a exploité ces différentes informations, on écoute cette revue de presse que nous présente Samuel Kachak.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse avec le potentiel qui titre « Tension dans l'Est, le mystère demeure ». Le quotidien note qu'après le huis clos mercredi dernier à l'Assemblée nationale, sous le sceau du sacro-saint principe de secret défense, l'opinion ne cesse de s'interroger « Pourquoi cette guerre dure-t-elle malgré toutes les initiatives expérimentées sur le terrain ?» Le mystère demeure entier. L'observateur constate de son côté que la guerre qui endeuille de nouveau la province du Nord Kivu commence à livrer ses secrets. Le journal note que l'ONU accuse le Rwanda de soutenir le M23, une rébellion d'anciens membres du CNDP au cœur des violents combats avec les forces armées de la RDC au Nord Kivu. Insécurité à l'est de la RDC, l'ONU pointe du doigt le Rwanda, rapporte l'avenir. Le quotidien en déduit que les autorités rwandaises qui jouent aux sapeurs-pompiers dans ce que l'on qualifie actuellement de nouvelle guerre à l'est de la RDC ne soufflent en réalité que le chaud et le froid. Le potentiel voit les choses autrement et estime qu'au sujet du soutien du M23, l'ONU accuse Kigali et Kinshasa sauté. Pour le potentiel, l'accord signé récemment à Kigali entre le Rwanda et la RDC n'a pas dissipé les soupçons qui pesaient sur le régime de Kagame concernant son éventuel soutien aux rebelles du M23. Faisant allusion au récent rapport de l'ONU, le potentiel constate qu'on est resté motus et bouche cousue dans la capitale congolaise. Le phare de son côté titre « Kivu, enfin la vérité éclate ». Ce journal des dénonce ce qu'il qualifie de double jeu de Kigali. Autre sujet abordé cette semaine, c'est la chasse aux vendeurs et marchands dans les artères de Kinshasa. À ce sujet, Forum des As titre « Les marchands, vendeurs et autres chassés le long des artères kinoises ». Ce journal constate qu'aucune personne n'est épargnée par cette action qui s'apparente à une véritable chasse à l'homme. Parmi les victimes, on peut citer les femmes vendeuses de pain, gâteaux, épices, poissons grillés, friperies et kiosques implantés sous les lieux publics. Toujours dans le même lot, on retrouve les cireurs, cordonniers et même les vendeurs ambulants communément appelés chailleurs. Mais dans les rues de Kinshasa, ces personnes victimes se plaignent de la brutalité qui accompagne cette action. Dans un tout autre chapitre, la prospérité titre « Enrichissement illicite, le MLC est allié en justice contre les anciens ministres et premiers ministres ». Signalons enfin que l'enquête menée par Freefair DRC, une ONG britannique, révèle que 59 compagnies fictives exploite frauduleusement les minerais de la RDC dans les îles Vierges de la Grande-Bretagne et de Gilles Brattard.
Merci Samuel Kachak. Un commentaire John Ngomboa, vous êtes directeur des informations à la télévision Antenne A, émettant depuis Kinshasa. L'actualité, c'est aussi cette condamnation à 50 ans d'emprisonnement ferme de l'ancien président libérien Charles Taylor.
Oui, il fallait que ça arrive en vue ce que M. Taylor avait commis comme acte. Eh bien, il fallait que ça arrive. Je me suis dit, tant mieux. Maintenant, il faudrait que la CPI puisse avoir le courage d'aller plus loin parce que, bon, on a quand même l'impression que la CPI s'intéresse un peu trop à l'Afrique et pas suffisamment ailleurs aussi.
Et ses avocats, les avocats de Charles Taylor, disent que la justice n'a pas pu établir la responsabilité de Charles Taylor dans la guerre qui sévissait en Sierra Leone vers les années 90.
Bon, c'est, qu'est-ce que les avocats peuvent dire d'autre si c'est pas ça? Comment voulez-vous que Charles Taylor puisse se sortir de cette atrocité, comme en blanc comme neige? C'est quand même incroyable. C'est vrai que les faits s'étaient déroulés à une époque où, actuellement, il est difficile d'établir une relation nette, une causalité nette, mais c'est clair que Monsieur Taylor n'est pas un enfant de cœur, ça c'est évident.
Joël Kadedanga, éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. L'autre actualité, c'est ces mémos du groupe parlementaire MLC et Alliés, déposés ce mercredi au parquet général de la République. Selon ces députés de l'opposition, certains membres du gouvernement Gizenga 1 et 2, ainsi que Mouzito 1 et 2, et n'ont jamais déclaré leurs biens dans les 30 jours suivant la fin de leurs fonctions respectives.
C'est encore là un test guimaté de l'indépendance de la justice en RDC qui semble beaucoup plus politisé. J'ai peur que le dépôt de ces mémorandums puisse encore rester lettre morte et souffrir, comme ça a toujours été le cas, avec plusieurs plaintes, plusieurs mémos déposés au troisième pouvoir de notre pays, donc le pouvoir judiciaire. Et la plupart des ministres du gouvernement Gizenga 1 ou 2, du gouvernement Mouzito 1, 2 ou 3, n'ont jamais déclaré leur bien, leur patrimoine, qu'il s'agisse de leur entrée ou de leur sortie. Nous l'avons plusieurs fois dénoncé dans notre hebdomadaire Impact News, mais cela n'a jamais porté le fruit. C'est encore un nouveau test, mais dont je crains que ça puisse souffrir de non-applicabilité, étant donné que notre justice, on connaît son niveau de politisation.
Magloire Paloukou, directeur général de la radio Kivu 1, une radio qui émet depuis la ville de Goma au nord Kivu. Quelle est l'actualité qui domine à Goma aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, l'actualité qui domine Alain, c'est la révolte des prisonniers, les détenus de la prison de Mounzenze, où il y a 1088 personnes qui manquent de l'eau, qui n'ont pas mangé depuis une semaine. Et aujourd'hui, bon, les fosses septiques sont remplies, qui se sont révoltées ce matin. Paradoxalement, je viens de faire une enquête avec un de mes journalistes où le lac est plein. Il y a le niveau de l'eau qui a augmenté, mais l'eau manque dans la cité encore une fois. Et nous avons commencé la saison sèche, troisième fait de cette saison, parce qu'il y a maintenant encore la poussière sur la route qui a été démolie depuis un certain temps. Et ça fait chaud dans la ville, avec le bruit de prisonniers, l'eau qui manque, et la poussière. C'est un peu lourd, quoi, pour la population.
Merci. Notre premier thème de ce soir, situation sécuritaire au nord Kivu. Les services des renseignements rwandais et congolais ont entamé des vérifications à Goma au sujet de l'affaire des combattants rwandais qui se sont rendus la semaine dernière à la MONUSCO à Rutshuru. Ces vérifications font suite aux allégations faites par ces hommes d'être des combattants rwandais recrutés par les insurgés du M23 qui s'affrontent au FRDC dans cette partie du nord Kivu. Ces vérifications se poursuivaient mercredi dernier avec la facilitation de la MONUSCO. Sylvestre Kidolo pour les détails.
C'est ce mardi que les deux délégations des services de renseignement rwandais et congolais ont débuté la vérification des allégations des combattants rwandais qui se sont rendus. La rencontre a lieu à la MONUSCO où les 11 combattants rwandais sont pris en charge par la section DD3R de la MONUSCO. Les deux parties écoutent tour à tour les combattants en présence de la MONUSCO. Ces 11 jeunes combattants s'étaient rendus à l'unité du contingent de la MONUSCO à Rugari, en territoire de Rutshuru, le 22 mai dernier. D'après eux, ils auraient été recrutés au cours du même mois au village de Mudende au Rwanda par des personnes non identifiées. Les résultats de ces vérifications seront rendus publics dans les prochains jours. Entre temps, les combattants sont impatients de rentrer dans leur patrie. Cependant, ils expriment une inquiétude. Leurs pièces d'identité sont restées entre les mains des personnes qui les ont recrutées. En outre, ils demandent que les autorités les protègent contre les représailles de ceux qui les ont pris par force du Rwanda. Goma, Sylvestre Kilolo, Radio Okapi.
Par rapport à l'implication probable du Rwanda au conflit à l'est de la RDC, la MONUSCO s'abstient de confirmer ou d'infirmer. Toutefois, le porte-parole intérimaire de la MONUSCO a renseigné que 11 Rwandais, dont un mineur, ont été retrouvés au sein du groupe armé M23. Ces derniers ont témoigné avoir été recrutés au Rwanda et envoyés en République démocratique du Congo. John Ngomboa, comment vous analysez cette affaire? Il y a un média international qui, dans son édition de dimanche soir, le dimanche passé, Kinshasa, a affirmé que le Rwanda était impliqué dans la guerre qui sévit au Nord Kivu, en citant un rapport confidentiel des Nations Unies, alors que celles-ci, donc les Nations Unies, ne reconnaissent pas ces rapports, mais ils disent que ils ont reçu des gens et 11 personnes qui ont témoigné avoir été recrutées au Rwanda et envoyées au Congo pour lutter dans les rangs du M23. Comment vous analysez cette affaire?
Je vais peut-être te surprendre, Guy. Quand j'ai entendu cette histoire, j'ai pensé à Laurent Désiré Kabila. Je me rappelle lorsque, en 98, lorsque Laurent Désiré Kabila s'évertuait à faire voir à la communauté internationale que ce que nous vivions, c'était une agression, c'était très très difficile. Il n'a pas été facile et il a fallu plusieurs résolutions, je ne sais pas moi combien d'années, pour qu'enfin cela soit établi aussi. Mais pour une fois que un média, c'est-à-dire l'opinion internationale, et même la MONUSCO, c'est vrai que la MONUSCO ne veut ni infirmer ni confirmer, mais la vérité est que ces 11 personnes ont déclaré devant la MONUSCO qu'elles étaient d'origine rwandaise et qu'elles ont été recrutées. Mais c'est des preuves patentes.
Mais de là à dire que le Rwanda est impliqué directement dans ces conflits, est-ce que ce n'est pas trop fort?
Mais ces gens eux-mêmes ont fait ces déclarations. Personne ne les avait obligés de les dire. Mais alors à partir de ce moment-là, quelle a été la réaction du gouvernement congolais pour une fois qu'on lui donnait un boulevard? Moi je suis étonné. Le gouvernement s'est encombré des délicatesses inutiles. Jusqu'à ce jour, non, dans des formes rondes. Non, le Rwanda n'a jamais fait des cadeaux à la RDC, on le sait.
Il y a un travail de vérification qui est en cours, qui est fait par les services de renseignement rwandais et de la RDC. Inverse.
Supposons que des 11, je sais pas, miliciens ou quoi, enfin 11 miliciens soient trouvés au Rwanda et qui déclarent qu'ils sont armés par le gouvernement congolais pour pouvoir faire ce qu'ils font au Congo et qu'ils le fassent au Rwanda. Quelle aurait été la réaction de Kigali? Vous croyez que Kigali aurait été dans des formes diplomatiques comme la RDC le fait ici? Mais ils auraient au moins pu dénoncer, déjà ouvertement, et s'en prendre à Kigali, quitte à ce qu'on puisse régulariser maintenant de la manière dont ils le font. Mais maintenant, même si on pensait aux vérifications, et après, quand on va se rendre compte que c'est des Rwandais, qu'est-ce que Kinshasa va dire? Ou bien quand on va se rendre compte que c'est pas des Rwandais? Et moi, je crois que la démarche telle qu'elle est faite actuellement est plus au profit de Kigali. La ministre des Affaires étrangères s'est prononcée, mais chez nous qui a parlé?
Joël Kadedanga, ceci ne pose-t-il pas la problématique du traitement de l'information? Un média tombe sur un rapport sur lequel est consigné les témoignages des 11 personnes qui disent avoir été recrutées au Rwanda et envoyées au Congo pour combattre dans les M23. Et sur base de ces témoignages, les médias affirme que le Rwanda est impliqué directement dans la guerre. Est-ce que là on est dans les factuels ou on est allé au-delà du factuel?
Guy, je ne sais pas pourquoi vous avez peur. De un, de deux. Guy, je n'ai pas le pouvoir, n'est-ce pas, de juger un média, soit-il. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais la réalité, John l'a dit, malheureusement il s'est arrêté à 1998. Mais moi je peux aller plus loin. En octobre 1996, lorsque le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda attaquent la RDC, agressent la RDC par la touche de l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Zaïre, à l'époque l'AFDEL. Mais c'était le Congo, la RDC, est à genoux depuis octobre 1996. Depuis ce jour-là que l'AFDEL est entré et les militaires de Mobutu se sont enfouis et le pouvoir a été pris le 17 mai 1997, la RDC est à genoux et ça a toujours été l'opinion internationale et quelques indépendants au Congo crient: nous sommes agressés. Les autorités de la RDC, quelque peu, réagissent un peu. Les Nations Unies agissent un peu d'une manière ambivalente et restent un peu au milieu. Je ne confirme pas, je n'affirme pas. Ça a toujours été le langage de la communauté internationale de tout ce temps. Et en 1998, c'est le tour de ce qui va se faire appeler par la suite Rassemblement Congolais pour la Démocratie.
Et le
2 août 98. Et c'est le même exercice. Qu'est-ce qui se passe? Quelques indépendants disent la RDC est agressée. Le Rwanda nie en bloc. Et la communauté internationale, les Nations Unies hésitent de confirmer ou d'infirmer. Et on monte les missions d'enquête. Et le gouvernement de la RDC, à l'époque, heureusement, on avait un chef de l'État qui a déclaré que la guerre
va être langue populaire et terminera chez l'agresseur. Malheureusement, 3 années après, il va mourir et nous sommes restés dans cet état jusqu'à ce que les groupes, ceux qui avaient été utilisés, ont été formalisés et acceptés comme étant des groupes devant co-diriger la RDC. Ils ont dirigé la RDC pendant la transition.
Ils se sont mués en parti politique.
Et le Rwanda a compris que le jeu peut être facilement encore réédité. Je me rappelle qu'une fois, lorsqu'on parlait de « on peut arrêter Nkunda Batware » et ainsi de suite, et je me rappelle que le chef de l'État rwandais avait dit « Nkunda peut partir, il y aura toujours des Nkunda ». Aujourd'hui, c'est Makenga. C'est pour vous dire que c'est la même chose. C'est le même exercice, c'est la même chanson depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Et même demain, ça sera toujours la même chose et la communauté internationale restera toujours dans une ambivalence pour vous dire je n'affirme pas, je ne confirme pas. Merci. Mais la réalité est que la RDC est agressée depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. C'est une agression qu'elle a subie du Rwanda.
Merci Magloire Paluku. Comment vous qui êtes sur le terrain, comment vous analysez cette situation?
Il faut faire d'abord la différence entre les 11 personnes. Nous, on a annoncé cela 2 semaines avant la MONUSCO. Les photos sont là. Ces personnes avaient été interrogées au bureau de la MONUSCO. Donc la MONUSCO a utilisé une longue diplomatie pour en effet sortir des documents secrets. Et ces documents ont été récupérés par BBC pour le divulguer. Mais c'est connu. Alors, la différence que je vais expliquer est celle-ci. Ces gens, quand ils sont recrutés, c'est des ex-FDLR. Ils viennent, ils sont démobilisés au DDRRR de la MONUSCO et ils sont renvoyés au Rwanda. Au Rwanda, on les récupère, on les réutilise et voilà, ils se retrouvent au Congo comme des ex-FDLR. Ça, c'est la vérité. En effet,
et tout cela est consigné dans ces rapports? Tout ce que vous dites là est consigné dans les rapports confidentiels des Nations Unies?
Le rapport confidentiel lui-même ne le dira pas. Mais je vous explique le travail d'un journaliste parce que nous vivons cela. Nous avons interrogé la société civile, les responsables à Kamugenga, la population. Ces gens ont été présentés publiquement devant la population. On fait des témoignages publics. Les 11 sont venus par mon histoire. Les photos sont là sur Internet, sur Facebook, les vraies photos de la MONUSCO. J'ai eu des conversations avec certains responsables de M23 qui m'ont accusé parfois de dire qu'ils travaillaient avec des FDLR en comprenant ma conversation, c'est qu'ils travaillaient avec les ex-FDLR qui sont renvoyés à partir du Rwanda. Il y a un qui a été recruté à Goma, mais d'autres sont pris à partir du Rwanda. Et c'est connu. Quant à cela, impliquer le gouvernement rwandais, c'est là que j'ai dit la dernière fois qu'il y a des non-dits. Et je me rappelle dans la dernière conversation entre Jeune Afrique et Paul Kagame, Paul Kagame a dit que ses relations avec le président Kabila sont fluides, sont bonnes. Et cela peut être protégé au niveau diplomatique, mais ce qui se passe sur le terrain, effectivement, c'est des révélations à prendre avec considération. Affirmer c'est des faits qu'on ne pourrait pas atténué dans les discours des Nations Unies. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vécu comme cela.
Merci. John Gomboa, pensez-vous que Kigali a intérêt à soutenir les mouvements tels que le M23, surtout que à ce moment-ci, les relations entre Kigali et Kinshasa sont au beau fixe. Et est-ce que vous pensez que Kigali a vraiment intérêt à ce moment-ci à soutenir des mouvements comme le M23?
On n'a pas besoin d'écouter Paul Kagame dire quoi que ce soit sur la RDC pour connaître sa position. On les juge au fait. Si nous remontons dans le temps, on a vu ce que Kagame a fait depuis qu'il est arrivé au pouvoir jusque-là. Actuellement, je crois que Paul Kagame a intérêt à ce que la situation dans l'est de la RDC soit à sa portée, qu'il puisse la contrôler.
Il les ferait dans une situation de chaos?
Mais oui, parce que le chaos lui profite. Le chaos lui profite. Les Taganda, Laurent Kunda et tout ça. Ça, c'est des créatures de Paul Kagame. Il peut les amener. Aujourd'hui, on parle des Makenga et ainsi de suite. Mais c'est ses propres créatures. C'est lui le seul, je crois, des chefs d'État de la région qui comprend le mieux les jeux. C'est lui, en fait, qui pose les pièces. Et qu'il dise qu'il est en bon terme avec Kinshasa, ça c'est juste les propos diplomatiques. Il sait pourquoi il dit ça, mais en réalité, dans les faits, il n'a jamais changé de position. Ne nous leurrons pas, dans la région des Grands Lacs ici, il y a un certain nombre de pays où la démocratie laisse à désirer, à commencer par la RDC elle-même. Vous avez le Rwanda, vous avez le Burundi, vous avez l'Ouganda, et c'est des démocraties à venir. Pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Mais pour revenir à mon propos et terminer, je dis que, ne nous leurrons pas, Paul Kagame est le seul à comprendre clairement ce qui se passe ici. Il est le seul à pouvoir poser ses pions et je pense que nous ne devons pas lui donner un chèque en blanc comme on est en train de le faire.
Et Joël Kadidanga, pensez-vous que ce genre de mouvement comme le mouvement du 23 mars, celui dirigé par Makenga, vous pensez que ce genre de mouvements sont incapables d'évoluer sans le Rwanda, sans le soutien du Rwanda?
Il est impossible. Pas difficile, mais impossible que ces mouvements puissent subsister sans l'assistance et le soutien du Rwanda.
Pourquoi ?
Je vous donne le cas du CNDP. Quand le Rwanda a retiré son soutien en Kunda, et on a arrêté Kunda, Ntaganda a été négocié avec le gouvernement congolais pour que la guerre cesse et la guerre a cessé. De même, lorsque le Rwanda avait retiré son soutien au RCD Goma, et tout s'était arrêté immédiatement après. C'est vous dire quoi. C'est que ces mouvements ne peuvent pas résister sans le soutien du Rwanda. Et s'il faut que j'ajoute à ce que John a dit par rapport à la question que vous lui avez posée tantôt, le Rwanda a tout intérêt à maintenir son contrôle sur le Congo parce que ça lui profite et au plan politique, géostratégique, qu'au plan économique. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda est devenu un pays dont l'économie semble le fleuron. Et il semblerait même que certains pays copieraient leur budget sur celui du Rwanda, copieraient leur programme sur celui du Rwanda, en ce qui concerne particulièrement les programmes macroéconomiques. C'est vous dire que... Mais les minéraux que le Rwanda exporterait viendraient d'où? C'est du Congo. Et d'ailleurs, quand on parle d'FDLR aujourd'hui, on parle du génocide de 94. Ce sont les prétextes, ce sont là les alibis qui permettent encore au Rwanda de continuer à maintenir son contrôle sur la RDC. Parce que l'FDLR, comment comprendre que les gens qui, même 16 ans après, continuent encore à être forts, à être efficaces pour lutter dans les brousses du Congo? C'est une émanation, une fabrication personnelle, individuelle du président rwandais qui cherche tous les alibis pour assurer, n'est-ce pas, et continuer à assurer son contrôle sur les zones du Kivu, pour des raisons bien évidentes.
Magloire Paluku, les services de renseignement rwandais et congolais ont entamé des vérifications à Goma au sujet de l'affaire des 11 combattants, et nous apprenons même qu'il y a un communiqué qui va tomber dans quelques heures.
Effectivement, il y a deux semaines, je pense, si ma mémoire est bonne, une semaine et demie, j'étais à Kigali pour la cinquième, la réunion de la grande commission mixte Rwanda-RDC. Et cette grande commission devrait sortir, les chefs d'état-major devraient publier les communiqués cette semaine. C'est 10 jours déjà passés. Mais je dis que le communiqué sera diplomatique, puisque il ne faudra pas frustrer le Rwanda jusque-là. Mais la réalité est celle-ci. Pourquoi quelqu'un qui dit qu'il a été recruté au Rwanda, on veut atténuer ce qu'il a dit? Ce que nous allons en vivre, ça sera vraiment des pilules amères que nous allons accepter malgré tout. Mais je reviens à Guy, s'il te plaît, à une question. Quelqu'un qui est parti de Goma, qui a pris fuite, qui a fait défection dans l'armée, ça fait déjà depuis fin avril, il est parti avec une arme, peut-être avec 100 munitions. Comment jusqu'à aujourd'hui, il est fort pour combattre une armée qui est ravitaillée tous les jours? Vous comprenez que c'est peut-être, il y a une fourniture, un ravitaillement qui est là, qui se cache. Donc, le communiqué qui partira des Nations Unies, le communiqué qui partira cette négociation obsolète d'ailleurs entre les chefs d'état-major ou les deux délégations, ça sera un communiqué pour calmer le jeu au niveau diplomatique, mais la vérité est déjà connue.
Merci. John Gomboa, quelle proposition pour prévenir les chaos et pacifier définitivement cette partie du pays?
Oui, je crois que il faut que la RDC fonctionne comme un État normal, avec des institutions établies qui fonctionnent normalement. La justice, on a évoqué ici les cas du parquet général de la République, le gouvernement, ainsi de suite. Donc, amener le pays à fonctionner normalement résoudra automatiquement tous les autres problèmes ici.
Et cela a toujours été dit par beaucoup d'analystes, mais pourquoi les choses semblent ne pas évoluer?
Oui, c'est certainement, comme quelqu'un me disait, il n'y a que les pêcheurs en eau trouble qui voient clair dans l'eau trouble. Il y a des gens, enfin des gens qui savent profiter de la situation que nous vivons ici et qui maintiennent le pays dans cette situation pour pouvoir en tirer des dividendes. Mais il faudrait maintenant que ceux qui nous dirigent puissent mettre un terme à tout cela, qu'ils puissent se libérer. Je pense que nos dirigeants doivent se libérer. Ils sont pas libres.
Le problème se pose au Congo.
Le problème se pose au Congo. La faiblesse du Congo vient d'ici, vient du Congo. Et le Rwanda ne peut pas tenir face au Congo si le Congo se met debout. Et c'est les Congolais qui veulent que le Congo continue à être encore faible, comme nous le sommes, ridicule devant un pays comme le Rwanda à ce jour.
Joël Kadedanga.
Ne pas reconnaître que nous avons une crise de vision dans notre pays, c'est un péché. À se dire qu'il faudrait qu'au niveau où nous sommes arrivés, qu'on ait un leadership visionnaire, un leadership qui sait restaurer la place que Dieu Tout-Puissant a accordée à notre pays, la place de leader dans la géostratégie de l'Afrique. Nous occupons une place de locomotive, nous occupons une place de gâchette pour l'Afrique. Tant qu'on n'a pas une vision claire de considérer la RDC, comme Frantz Vanon l'a dit, que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo, comme le président Kassavubu a dit, que la RDC est le cœur de l'Afrique. Tant qu'on n'a pas cette vision, c'est le leadership visionnaire qui voit que la RDC doit reprendre sa place par son armée forte. Écoutez, à l'époque, je crois que c'était le président Mobutu qui pouvait superviser certains pays, même dans le coup bas qui se passait, pour placer ou démettre un président en Afrique centrale. Et je pense qu'à l'époque, c'était ça. Il faudrait que maintenant, on ait ce leadership visionnaire qui restaurera, n'est-ce pas, l'armée, la police, les services de renseignement, de telle sorte que nous puissions réoccuper la place que nous devons et que Dieu Tout-Puissant nous a donné en Afrique et dans le monde.
Magloire Paloukou, vos propositions pour pacifier définitivement le Nord Kivu, en fait, pas tellement le Nord Kivu, mais l'Est du pays.
Je pense que la géopolitique internationale ne joue pas en notre faveur. Je pense que le dénigrement perpétuel du Congo nous décourage même moralement. Le dénigrement de notre pays est devenu un aura obscur qui nous empêche de voir clair. Il nous faudra, franchement, au niveau politique, peser au même niveau que les pays qui nous entourent ici dans la région des Grands Lacs. Il faudra que le Congo soit fort pour aller dans les négociations et préparer même les documents, les communiqués communs avec le Rwanda. Il faudra que le Congo pèse plus que le Rwanda, pèse dans sa valeur même éthique. Si nous restons ces gens qui devons toujours jouer à la défensive, effectivement, nous sommes mal partis.
Merci.
Je vous dis que nous sommes dribblés dans la région et il faudra que le leadership se réveille pour que nous puissions, que nous réorganisions d'abord à l'intérieur de notre pays. Ce qui s'est passé au front la semaine dernière où notre armée qui est bien cotée mais qui a une désorganisation interne doit être aussi corrigée pour que nous soyons en face des gens qui nous respectent.
Merci. Nous passons à notre dernier thème de ce soir. Ville de Kinshasa, l'opération Ville Propre lancée par l'Hôtel des Villes prend des allures inquiétantes avec quelques dérapages. Certains éléments de la police s'en prennent avec brutalité aux commerçants qui étalent leurs marchandises le long des artères de la capitale. Les commissaires de la police Ville de Kinshasa justifient cette situation par le refus des 10 marchands d'obtempérer aux ordres de l'autorité publique. Le récit des faits avec Michel Kifindangoï.
C'est une opération qualifiée de brutale qui sévit sur les avenues de Kinshasa. Des kiosques dévastés, des boutiques et des étalages brûlés, voilà ce qui caractérise l'opération Ville Propre. Pour l'autorité urbaine, l'objectif est de nettoyer les rues, fluidifier la circulation et rendre la ville plus présentable. Seulement, certains policiers sont accusés d'agir avec beaucoup de brutalité. À Kitambo et au niveau de la station Macampagne dans la commune d'Engaliema par exemple, les policiers se sont mis à brûler des boutiques avec la marchandise dedans. Certains ont même coupé les arbres qui servent de l'ombrage aux marchands, ce qui explique l'indignation de ces vendeurs.
Ils cassent toutes nos boutiques. Parfois, ils brûlent toute notre marchandise. Ils sont en train de nous détruire. Le peuple souffre déjà et vous venez avec toute brutalité brûler ses biens. Mais vous amplifiez sa souffrance.
Cette opération est néanmoins saluée par certains Kinois.
Les policiers n'exagèrent pas. Seulement, les policiers doivent exécuter ce que leur chef décide.
Le commissaire de la police ville de Kinshasa rassure pour sa part que ces éléments se comportent plutôt bien. Pour le général Jean de Dieu Oleko, la police est brutale seulement avec des gens qui refusent de se soumettre aux instructions de l'autorité publique.
Joël Kadedanga, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Et Kinshasa, appelé jadis Kinshasa la Belle, est aujourd'hui considéré comme l'une des villes les plus sales. Et donc, il y a nécessité de prendre des initiatives telles que cette opération en cours appelée Kin Propre. Comment vous analysez cette mesure qui a été prise par l'hôtel des villes?
Une mesure à saluer dans la mesure où il y a lieu, n'est-ce pas, de corriger la saleté qui gangrène la ville de Kinshasa. Des fois, ça fait honte. Mais là où le bât blesse, c'est lorsque ces mesures sont prises sous forme d'état d'âme, sous forme d'émotion, comme on l'a dit la dernière fois. C'est-à-dire, on se réveille le matin, on prend une décision parce qu'on doit plaire à nos visiteurs qui viendront en RDC pour raison du sommet de la francophonie. Je me rappelle lorsqu'il fallait encore fêter le cinquantenaire, on a observé des embouteillages terribles sur la ville parce que le roi belge venait. Donc je me pose plusieurs questions. Nous vivons pour les autres ou pour nous-mêmes? Parce que si nous vivons et nos dirigeants dirigent pour les Congolais, on ne dirige pas pour l'extérieur, pour la face externe, celle qui est vue de l'extérieur de notre pays, je crois qu'il fallait qu'on mûrisse les mesures. Mûrir les mesures, ça veut dire quoi? Il fallait qu'on regarde l'état de nos marchés actuels. Ça, c'est de un. Est-ce que ces marchés peuvent permettre que d'autres marchands qui sont à l'extérieur viennent y vendre? Première interrogation. La deuxième, se poser la question, est-ce qu'en dehors de ce marché qui existe, grand marché, marché Gambela, marché Zigida, ainsi de suite, est-ce que le marché de l'emploi peut-il encore contenir certaines personnes qui sont en mesure de travailler, qui ont étudié, qui ont des diplômes, qui ont une expertise? Est-ce qu'on peut ouvrir le marché d'emploi de telle sorte à prendre quelques jeunes qui sont chailleurs, comme vous l'avez dit, qui vendent à même le sol, on peut le reprendre? On se pose cette question-là. Et lorsque vous avez à traiter la question en amont, il y a lieu d'avoir des réponses palpables en aval. Mais ici, c'est quoi? On se lève, ces gens ne vivent que de ça. Et on le chasse de leurs étalages, on brûle leurs étalages, on ravit leurs marchandises, on les brûle. Vous ne savez pas de quelle manière ils en ont eu et on les chasse de la rue. Que veut-on préparer? On prépare la population à une frustration qui peut être conséquence à plusieurs méfaits. Moi, je crois, Guy Maté, et les auditeurs qui nous écoutent, et même nos autorités, qu'il faudrait qu'on réfléchisse sur les mesures qu'on doit prendre et que ces mesures aient une durée, qu'elles soient solides pour une durabilité qui peut permettre à ce que, même après le sommet, que Kinshasa vive. Il ne faudrait pas qu'on assiste à des choses telles que, après le cinquantenaire, les travaux se sont arrêtés, il a fallu que Radio Okapi encore sonne l'alarme pour qu'on reprenne les travaux sur le boulevard Lumumba. Merci. Je crois qu'il faudrait qu'on évite les états d'âme, les émotions, pour prendre des mesures solides et pour une durée un peu considérable.
Merci John Ngomboa. Je rappelle que vous êtes directeur des informations à la télévision Antenne A, qui émet depuis Kinshasa. L'opération Kin Propre, à peine lancé, on signale déjà des dérapages.
Oui, c'était prévisible. Vous savez, les forces de l'ordre, la police, l'armée, c'est rarement des gens disciplinés dans notre pays. C'était donc prévisible. Ils sont pas disciplinés, ils sont mal payés. Et souvent, on les envoie, c'est payé sur le dos de la population. Et donc, c'était à prévoir qu'ils allaient casser et qu'ils allaient extorquer les gens. Et moi, ça m'afflige parce que c'est pas nouveau en réalité, les kines propres ou ce genre d'opérations. Combien de fois est-ce qu'on les a pas vécues dans cette ville? Autant de fois. Et nous connaissons plus ou moins comment ça commence et comment ça se termine. Mais il faut apprécier l'urgence et les priorités. Qu'est-ce qui est urgent pour les pays? Qu'est-ce qui est urgent pour le gouvernement? Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est peut-être prioritaire aujourd'hui de réaliser ces forums, mais il y a urgent aujourd'hui. Urgent, c'est de savoir donner à manger aux gens tous les jours. Est-ce que le gouvernement, il est fait? Mais pourquoi est-ce que, avec ceux qui s'organisent difficilement, vous allez encore casser les peu qui existent?
Il y a même des députés nationaux, Martin Fayoulou, qui a dit hier que l'Assemblée provinciale de Kinshasa ne devait pas rester passive face à cette situation.
Et absolument, parce qu'il y a des abus, voyez-vous. On va envoyer la police pour disperser. Mais la police en profite aujourd'hui pour stocker les biens des privés. Qu'est-ce qu'on en fait de ces biens, de ces boissons, de ceci, de cette nourriture à vendre et tout ça, qu'on emporte? Qui gère tout ça? Et donc, il y a quand même beaucoup d'abus qui, aujourd'hui, finalement, altèrent même les fonds de la démarche, comme on le sait, lorsque la forme utilisé par la police ne correspond pas, ça altère même le fond.
Magloire Paloukou, je rappelle que vous êtes directeur général de la radio Kivu 1, une radio qui émet depuis Goma au nord Kivu. Comment se présente la situation dans la ville de Goma? Est-ce qu'on y parle aussi salubrité publique?
Oui, ben c'est tous les jours, hein. C'est des choses qui se répètent depuis des lustres. Faut dire que le Congolais a une autre façon de rendre sa cité propre. Goma, quand il pleut, c'est pas une ville qu'il faut visiter après la pluie, hein. C'est pas le beau temps. C'est vrai, mais les caniveaux sont vidés par la mairie, mais imaginez-vous quelqu'un qui va vider les caniveaux de toutes les saletés sans bottines et sans gants. C'est vrai, la propreté urbaine est quand même terrible. Mais je voudrais dire que moi qui ai vécu à Kinshasa, c'est vrai, le Kinois, il faudra beaucoup le sensibiliser pour qu'il rende sa parcelle aussi propre par rapport à ce qu'on voit dans certaines autres villes. En revenant à Goma, c'est la même chose, quoi. La destruction de nos villes, la destruction urbaine est tellement avancée qu'il faut commencer par la sensibilisation au lieu d'aller casser les boutiques, casser le magasin, obliger les gens. Il faut la sensibilisation, plus elle sera compréhensible, plus on va l'inculquer dans le psyché de la population et pourront commencer peut-être à aider le gouvernement à laver. Sinon, quelqu'un va attendre que le gouvernement vienne jusque balayer devant sa porte. Ça semble très difficile. Ici, nous avons le sérieux problème de l'ancien ministre et nouveau ministre Kashoshi qui a détruit les rues urbaines de Goma, parce que ça fait trop poussière, il faudra que ça se termine un jour, qu'on remette quand même du goudron, ça fait trop sale, quoi, et ça, c'est des maladies, c'est des pamphlets contre les autorités. Bon, la saleté est là, on vit avec.
Joël Kadedanga, il faut sensibiliser les Kinois. Lorsque vous arrivez dans certains marchés, vous trouvez les étalages vides parce que les vendeurs préfèrent se tenir le long des routes, le long des artères. Ne faut-il pas, comme le propose Magloire Paloukou, sensibiliser, faire une campagne de sensibilisation auprès de cette population kinoise?
Mais c'est là que les choses devaient commencer, au lieu que vous commencez par la faim. Donc la répression ou la chasse aux marchands ambulants, ça devait être la dernière mesure qui devait être prise. Il a fallu commencer d'abord par la sensibilisation de la population, prendre des mesures qui peuvent, n'est-ce pas, permettre à ce que la population, au lieu de préférer acheter quelque chose le long de la route, qu'elle se rende au marché. C'est là où j'ai parlé d'abord de l'amélioration des marchés. Je me rappelle, Moussa Laurent Désiré Kabila avait trouvé la même solution pour Lubumbashi à l'époque de Kasebama Konko, l'ancien maire qui était appelé Boulaya 2000. Pourquoi on l'avait appelé Boulaya 2000? Parce qu'avant toute chose, on a...
Boulaya, c'est-à-dire l'Europe.
L'Europe 2000. C'est le sobriquet qui lui avait été collé. Pourquoi? Parce que avant
de chasser les gens de la rue, la première chose, c'est améliorer les marchés. Lorsque vous améliorez le marché, vous invitez ces gens qui n'avaient pas où vendre à s'acheter des petits espaces dans le marché pour étaler leurs histoires. Et lorsque vous avez fait cela, il y a lieu maintenant de dire, vous qui ne vous êtes pas acquis des étalages dans le marché, allez quitter le long de la route. Mais ici, on n'améliore pas le marché, on ne sensibilise pas, mais on vous réveille seulement, vous avez amené déjà vos histoires au marché, on vient vous chasser, on vous les ravit. Or, la police, là, John l'a dit, elle n'est pas bien payée, et elle ne va que se faire payer sur le dos de la population, et elle va trouver le moyen d'avoir des choses dont elle a besoin sur le dos de la population. Et ce sont les conséquences fâcheuses, parce que ce sont les malédictions qu'ils vont se faire acquérir chacun dans sa famille.
John Nongomwa, qu'est-ce qu'il faut-il faire pour assainir véritablement nos villes ici en République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut repenser l'urbanisation de nos villes. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain, on le fait sur coup des émotions. Moi je suis étonné, j'ai dit en passant que je suis quand même déçu par le gouvernement, Matata.
Il vient d'arriver.
Oui, oui, mais quand on vient d'arriver au gouvernement, ça ne veut pas dire qu'on commence à connaître le gouvernement là. Hein? Ça veut dire qu'on s'est préparé déjà en amont. L'urbanisation est une planification. Vous savez par où vous commencez et vous savez par où vous terminez. Ne terminez pas par les effets. Hein? Il faut d'abord identifier les causes. Nous avons un problème ici d'urbanisation. Les ouvrages d'assainissement, les caniveaux, les routes sont en quel état, les maisons sont-elles construites en fonction des normes? Mais il faut repenser toute cette politique-là, l'asseoir clairement, la présenter. Et puis après, commencer à initier la population. Écoutez, vous étiez dans telle situation, voilà pourquoi nous devons changer, aller dans telle autre situation. Et là, vous faites des choses en harmonie avec la population.
Magloire Panoukou, que faut-il faire pour assainir véritablement nos villes? John Gomba parle de repenser l'urbanisation de nos villes.
Vous savez que, Guy, que ça coûte des millions. Rappelez-vous, à un moment donné, il y a 3 ans, je pense, la Banque africaine de développement avait donné de l'argent pour mettre des poubelles publiques à Kinshasa. Ça coûte des millions. C'est une longue planification. Le pays est détruit depuis plus de 50 ans. Ce n'est pas aujourd'hui. Peut-être un petit conseil. Le gouvernement devrait faire comme dans d'autres villes du monde, même comme au Brésil, où vous avez des gratte-ciels et des gratte-ciels, vous avez des bidonvilles. Commencez à enjoliver pour la francophonie le centre-ville de Kinshasa. Enjoliver, mais laissez quand même Kassavubu et Mongafu, là, c'est quand même un peu loin. Je ne vois pas un président qui ira visiter Mongafoule à la francophonie. Bref, de passage, il faut une longue planification, puisque c'est des millions pour refaire les rues, refaire les caniveaux, refaire la planification des études. Il faudra un long budget qui ne va même pas peut-être avec le budget de l'État.
Et Joël Kalidanga, il faut une longue planification qui nécessite un budget consistant.
Oui, vous savez, Guy, on dit en relations internationales que les puissants extorquent ce qu'ils peuvent et les faibles cèdent ce qu'ils doivent. Et je crois que le gouvernement devrait arrêter de se fabriquer le premier ennemi, la population congolaise. Je pense qu'il y a certaines décisions qu'il faut prendre ensemble avec la population, en concertation, par une bonne campagne de sensibilisation, une bonne campagne d'inculcation des nouvelles méthodes de vie dans la ville. Et pour cela, on peut même créer des marchés, parce que la plupart des gens que vous voyez en ville, les talents, les histoires, là, ils viennent de la Tchangou. On peut créer des petits marchés, des marchés qui peuvent permettre que la population se rende dans Tchangou, comme à Mongafula, comme le confrère l'a dit, il connaît Kinshasa. On peut créer ces marchés-là et réorienter tous ces marchands-là vers là où ils peuvent vendre avant de les chasser de nos rues et de nos avenues. Je pense que si nous vivons, si on dirige pour les Congolais, on doit prendre les décisions avec les Congolais, qu'on prenne les décisions ensemble avec la population, qu'on prenne les décisions en sensibilisant la population, qu'une décision soit prise comme si c'est la population elle seule qui a décidé que cette décision-là soit prise.
Merci, c'est la fin de cette émission. Mimi Kindo était à la technique, Alain Irung à la réalisation assistée de Kelin Kouté et de Samuel Kachak. Sous la supervision de Pelé Kipela Mondo, devant ce micro, Guy Maté, merci et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.